Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 11 avril 2024, il y a 778 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Slava Ukraine. Героям слава.
Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On va sortir de nos formats habituels. Je vous propose un grand entretien avec deux intellectuels engagés, en couple, à la ville comme à la guerre.
Moi, je suis Tetiana Ogarkova.
Volodymyr Yermolenko. Pour nous, être intellectuel engagé, c'est évident. Donc, tu ne peux pas ne pas être engagé, oui.
Comme de très nombreux Ukrainiens, Tetiana et Volodymyr ont plusieurs casquettes. Philosophe, universitaire, écrivain. Et depuis février 2022, journaliste, témoin et acteur du conflit.
Être intellectuel, ce n'est pas observer. C'est une tentative de changer des choses. C'est un espace de liberté. On pense surtout pour agir. Tous les intellectuels ukrainiens qu'on connaît, les poètes, les écrivains, les musiciens, soit ils sont dans l'armée, soit ils sont des volontaires, parce que, en certains moments, tu comprends que l'individu et la communauté, ils sont très très liés, et que cette solidarité est quelque chose de naturel.
Quand il y a la guerre contre ton pays, on a cette soif d'agir, et si nous nous déplaçons avec Volodymyr vers les zones du front, c'est pour aider notre armée et nos civils. C'est-à-dire que nous n'arrivons jamais les mains vides, nous apportons les voitures usagées que nous achetons grâce à nos amis dans les marchés en Europe, que nous emmenons vers nos soldats qui transforment en voitures d'évacuation. Ça aide à sauver des vies.
Nous sommes dans la région de Dnipro et nous suivons un militaire pour aller dans la direction de Berdiansk en fait. Pourquoi nous allons là-bas? Puisque nous emmenons deux voitures, donc le jeep que je conduis, encore un pick-up qui est derrière. Nous espérons que ces deux voitures que nous emmenons vont aider aux soldats de continuer la résistance. Le militaire qui nous amène, c'est un blessé de guerre qui a perdu son bras droit. Et pourtant, il est juste devant nous, il conduit son jeep.
Mais quand il se déplace vers les zones de combat, Tetiana et Volodymyr apportent aussi de l'aide aux civils.
Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens qui habitent sur la ligne du front, sans électricité, sans connexion, à quel point ils ont besoin de lire. À Kherson, par exemple, dans cette ville qui est bombardée tous les jours, toutes les bibliothèques sont détruites. Ce que font les locaux, ils font les bibliothèques dans les abris, c'est-à-dire au sous-sol. Ils mettent des étagères, que ce soit prose, poésie, documentaire. Il y a une demande incroyable. Et ça, c'est vraiment une soif, une demande, une redemande des livres. Et on profite de ces voyages-là pour documenter. Nous prenons notre petite caméra d'iPhone et puis nous filmons ce que nous voyons. Nous essayons de raconter le physique de la guerre parce que la guerre, vue de loin, c'est uniquement une carte. Voilà, telle partie de l'Ukraine est occupée et autre n'est pas occupée. Mais quand on est sur le terrain, on veut raconter cette souffrance qui est là, cette absence de vie qui est là. À chaque fois, on est tellement inspiré et motivé par le courage des gens qui restent malgré tout, qui habitent souvent dans les ruines de leur propre maison et qui passent leur temps à réparer ce qui était détruit, ça motive. Et donc c'est ça qu'on veut voir nous-mêmes et c'est ça qu'on veut montrer aux autres. Nous sommes à Kherson, dans l'endroit le plus dangereux, le plus exposé de cette ville. C'est vraiment toute la limite de l'Ukraine en fait. Nous occuper aujourd'hui. Il y a ce silence, très peu de voitures, très peu de gens, très peu de présence humaine. Interdiction absolue d'y entrer pour la presse, bien sûr. Il faut savoir aussi, ce qu'on ne voit pas dans les vidéos, c'est que c'est vraiment dangereux de se retrouver dans les espaces vides comme ça. À chaque fois qu'on repasse à Kherson, on voit par exemple que l'hôtel qui est à côté de cette place centrale, il est déjà encore plus endommagé, c'est-à-dire qu'il y avait une frappe entre nos deux visites. Quand on se trouve dans ces zones près de la ligne du front, on sent que l'air, c'est une substance dangereuse. C'est par l'air que les bombes arrivent, c'est par l'air que les missiles arrivent. C'est pour ça que d'ailleurs, que les gens se déplacent très vite dans les espaces vides comme ça. Il faut bouger vite, il faut pas s'arrêter. Et si on fait des photos, on le fait vite. Si on fait des vidéos, on enregistre des vidéos, on fait vite. Et tout de suite, on saute dans notre voiture et on continue la route parce que si on reste longtemps, il y a toujours des risques de bombardement.
Inlassablement, Tetiana et Volodymyr publient des vidéos sur les réseaux sociaux en français et en anglais. Ils participent à des émissions télé, répondent à des interviews radio. Ils organisent des lives sur X et sur Twitch. Volodymyr anime le site Ukraine World et Tetiana produit un podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Je vais vous mettre toutes les références sur la page de cet épisode. Ce sont des militants pro-démocratie depuis la révolution de Maïdan en 2014. Ils savent que leur combat s'inscrit dans un temps long quand d'autres autour d'eux commencent malgré tout à se décourager.
Oui, avec le temps, c'est de plus en plus difficile. Il y avait cette illusion de la guerre courte. Ce ne sera pas une guerre courte, ça prendra peut-être des décennies. Et pour la société ukrainienne aussi, il y avait beaucoup des voix qui disaient que voilà, dans deux semaines, dans deux, trois mois, jusqu'à la fin de cette année, on sera en Crimée. Et c'est pour cela que c'est très difficile maintenant de s'adapter à la réalité nouvelle. Pour moi, comme philosophe, franchement, il faut penser dans les termes de décennies, voire plus. Donc pour moi, tout le 21e siècle sera le siècle de la question ukrainienne. De la même façon que le 20e siècle était le siècle de la question polonaise en Europe de l'Est.
Sauf que plus la guerre dure, plus elle fragilise la résilience des Ukrainiens.
Oui, les fractures dans la société ukrainienne existent évidemment. Fractures entre ceux qui ont quitté le pays et ceux qui ont resté, ceux qui ont sur la ligne de front et ceux qui ne sont pas, ceux qui aident à l'armée et ceux qui sont indifférents. Donc ça existe toujours, malheureusement, mais je pense que toujours ce côté solidaire est plus fort que les fractures.
Et je dirais qu'il y a une Ukraine à deux vitesses, ou même une Ukraine à trois vitesses, hein, parce qu'il y a la ligne du front et c'est une vitesse où chaque seconde compte, parce que tu peux te tuer à tout moment. Il y a cette deuxième vitesse de cette ligne de 54 km vers les lignes du front où le danger est dans l'air. Il y a cette vitesse un peu plus à ralenti, en arrière, à Kiev, à Tchernivtsi, à Lviv, parce que il y a le quotidien, puisqu'il y a le travail, puisqu'il y a la vie de famille, parce qu'il y a les enfants qui vont à l'école, on vit plus ou moins normalement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus motivés parce qu'ils sentent plus que le danger est imminent. Mais je pense que la majorité écrasante des Ukrainiens sont d'une manière ou d'une autre liés à cette guerre. Il y avait même des statistiques, si je ne me trompe pas, 85% des Ukrainiens ont déjà perdu quelqu'un qui est proche, et donc ça a fait cette guerre très personnelle. Soit c'est un membre de famille, soit c'est un collègue qui est sur la ligne du front, alors toi, tu peux pas rester indifférent, tu fais une collecte, parce que les gars, ils ont besoin de, je sais pas, de rétroviseurs, ils ont besoin d'une tablette, ils ont besoin d'un ordinateur, ils ont besoin d'une voiture. Toi, tu essaies d'aider. C'est une aide tout à fait personnelle pour quelqu'un que tu connais. Donc, fracture, oui, mais il y a ce lien entre l'arrière et le front qui est beaucoup plus étroit qu'on ne le pense.
Quand Macron parle de l'économie de guerre, cette mobilisation d'industrie, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin vraiment des industries, des technologies européennes. C'est pas seulement la question des obus, c'est la question de savoir-faire, c'est la question de technologie, parce que la guerre est hyper technologique. La situation sur la ligne de front, ça change tous les 2-3 mois. Là, maintenant, c'est la guerre des drones, mais ça peut changer dans 3 mois, 4 mois. Bien sûr, les économies européennes sont beaucoup plus avancées que l'économie russe dans ce domaine. Parce que les Russes, ils font la guerre toujours par les vies humaines. Ils sacrifient aussi leurs propres soldats. Quand on parle de l'acte terroriste à Moscou, bon, il y avait centaines de morts, mais il y a 300, 400 000 morts tués par Poutine de ses propres soldats. Donc, c'est ça où la technologie peut nous aider. C'est ça où l'Europe peut nous aider. Il faut penser aux usines qui vont produire les systèmes de défense du haut niveau technologique qui vont sauver les vies des soldats et des civils ukrainiens. Et j'espère que l'Europe comprendra ça.
Et ce qui est capital ici, c'est la vitesse avec laquelle les armements ou les systèmes de défense arrivent. Prendre la décision que tout sera fait côté partenaires pour assurer que l'armée ukrainienne s'épuise pas en attendant les armements, mais qu'elle ait tous les matériels nécessaires. C'est dans ces conditions-là qu'on pourra parler sérieusement de la possibilité de repousser l'armée russe. Mais on craint, par exemple, que les F-16 qui arrivent d'ici l'été 2024, ils seront quelques unités seulement, que ce ne sera pas suffisant. Après, avec quels missiles arrivent ces F-16? À quelle distance? Donc, tout ce demi-mesure, toute cette volonté d'aller, mais d'aller doucement, de la sorte de pas provoquer une espèce d'escalade, elle prolonge cette guerre, elle épuise les ressources européennes autant que les ressources ukrainiennes, et puis ça nous fait perdre progressivement cette guerre. Donc justement, la concentration de l'effort dans un temps imparti, l'engagement qui serait pas partiel, mais qui serait un total, aiderait énormément à l'Ukraine de progresser et puis de reposer la question qu'on puisse réellement repousser l'armée russe d'une manière très significative. Et surtout, il ne faut pas leur offrir l'OTAN. Chaque fois, on leur offre encore quelques temps pour se préparer. Ils font des alliances, ils trouvent des voies pour contourner les sanctions. Ils obtiennent des drones iraniens, ils obtiennent des missiles nord-coréens. Du coup, ça devient de plus en plus difficile. Donc, il ne faut pas essayer de d'étaler cette guerre dans la durée, puisque en l'étalant dans la durée, on met tous les avantages du côté russe. Il faudrait une concentration maximale de l'effort solidaire européen, et on espère aussi américain, dans un temps imparti. Comme ça, on arrivera à avancer beaucoup plus vite.
Il faut prendre au sérieux tout ce qu'ils disent sur leur idée de partager l'Europe, c'est ce qu'ils ont dit, hein, parce que c'est une base idéologique de leur guerre. Alors maintenant, évidemment que le régime russe essaye de se mettre comme des victimes de ce mal universel qui est terroriste, islamiste, etc., ils veulent avoir de l'empathie des autres gouvernements pour se mettre pas dans le camp des agresseurs et des terroristes, mais dans le camp des victimes. Et il veut vraiment donc détourner la logique et de dire que ce sont des Ukrainiens qui sont des terroristes, qui sont des vrais gens avec le sang dans leurs mains, etc. Et je pense que ça viendra à plusieurs reprises. Ils vont faire des actes terroristes ou ils vont laisser les islamistes faire des actes terroristes vraiment très atroces. Et ils vont dire que ce sont des Ukrainiens. Parce qu'ils veulent renverser cette hiérarchie morale. Bah, j'espère que tout le monde comprend que c'est un mensonge qui est utilisé pour justifier plus de violence. C'est ça.
Et aussi une nuance très importante, que ce que ça ouvre, une voie de communication du Kremlin qui vit dans un certain état d'isolement des gouvernements occidentaux, mais aujourd'hui se met sur le pied d'égalité avec la France, avec d'autres pays européens, en disant que nous aussi, nous sommes victimes. Regardez, nous sommes victimes de ce mal absolu qui est État islamique, alors unissons-nous contre ce mal absolu. Tout ceci, ça ouvre des voies de réintégration de la Russie dans cette communauté, dans cet échange des données, etc. Donc aujourd'hui, ils vont faire oublier, vont tenter en tout cas de faire oublier que eux-mêmes, ils sont des terroristes qui commettent des actes terroristes vraiment sur la base de tous les jours contre les populations civiles en Ukraine et aussi en tuant leur propre population civile, en la voyant comme ça dans cette boucherie des tranchées à côté d'Avdiivka, à côté de Bakhmout. Ce sont des crimes contre leur propre population. Selon les chiffres très modestes américains, 300 000 personnes, nos chiffres ukrainiens sont... Voilà, on dépasse, on approche 500 000 personnes. Et pourquoi faire?
L'idéologie russe, l'idéologie poutinienne disent que l'Union soviétique a perdu la guerre froide grâce au complot occidental. Et c'est pour cela qu'il faut obtenir une revanche. Et la revanche, pour eux, c'est la dissolution de l'Union européenne et c'est la guerre civile aux États-Unis. C'est ça dans leur tête, c'est ce qu'ils disent ouvertement depuis des décennies. Donc les agents russes ici, ce sont des gens qui veulent détruire cet espace de la paix quand même qui existe en Europe, qui existe en Union européenne. Donc il faut bien comprendre quel est le but de cette propagande, parce que c'est pas même la propagande, c'est là ce qu'ils appellent la guerre d'information et de psychologie. Alors, Et voilà, ils sont très actifs par leurs moyens, par leur Spoutnik, par leur Arti, par d'autres moyens, par leur parti politique, qui sont liés à la Russie. Mais on doit très bien comprendre quel est le but final. Quel est le but final? Comme je répète, quand les Russes ont dit à 2021 qu'ils veulent renverser l'élargissement de l'OTAN, ça veut dire, il faut lire clairement tout ça, tous ces propos, ça veut dire qu'ils veulent partager l'Europe de nouveau, contrôler la Pologne, la République tchèque, c'est dans leur fantasme. Mais ils veulent essayer d'obtenir ce résultat. Et quand vous avez un grand pays militarisé avec toutes les ressources qui viennent pour la guerre, bon, ça devient pas tellement irréel.
Vous écoutez une chanson folklorique, le vaste Dniepr rugit et gémit. Elle est arrangée et interprétée par le chœur Saint-Jacobs à Stockholm. Guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Tetiana Ogarkova et Volodymyr Yermolenko. Mise en onde, Sébastien Royer. Production, Isabelle Labéry. On se retrouve jeudi, je serai en Ukraine. Camille Magnard prendra les commandes de ce podcast.
C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.